Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de la deuxième épître de Pierre et nous allons réfléchir au texte du chapitre 3. Ce chapitre aborde des questions concernant le retour de Jésus-Christ et nous aide à comprendre la façon dont nous pouvons vivre à la lumière de ce grand événement à venir. Stéphane est de retour parmi nous pour nous aider à parcourir cette lettre peu connue et à saisir son message. Stéphane, bonjour.
Bonjour Ian, merci beaucoup et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons commencé à étudier ce chapitre 3 de la deuxième lettre de Pierre. Nous avons appris que les gens se moquaient des premiers chrétiens parce que Jésus n'était pas encore revenu, malgré sa promesse de le faire un jour. Pierre écrit alors pour rassurer ces chrétiens et leur dire que nous pouvons avoir confiance aux promesses de Dieu, même si elles tardent à se mettre en place. Dieu n'a-t-il pas déjà jugé la terre entière à l'époque de Noé? À plus forte raison, il le fera encore une fois quand Jésus reviendra. Toutefois, nous pouvons nous demander pourquoi Jésus tarde à revenir. Dans le texte que nous allons étudier aujourd'hui, Pierre commence à répondre à cette question. Alors, écoutons à présent la lecture de la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, versets 7 à 10.
Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle.
Merci. L'apôtre Pierre a écrit sa lettre pour rassurer les chrétiens qui se demandaient pourquoi le Seigneur Jésus tardait à venir. Il a écrit seulement 35 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, presque 2000 ans se sont écoulés, et à plus de forte raison, nous aussi, nous pouvons nous demander pourquoi Jésus tarde à revenir.
C'est vrai, Ian, et c'est une des raisons pour laquelle il est important que nous étudions cette deuxième lettre de Pierre, une lettre qui est souvent négligée et méconnue. Dans le texte que nous venons d'écouter, Pierre donne deux éléments de réponse à la question qui nous intéresse. Des éléments de réponse qui peuvent nous rassurer. Ce texte contient aussi un avertissement pour ceux qui restent incrédules.
Quel est donc le premier élément de réponse nous permettant de comprendre pourquoi le Seigneur tarde à venir?
Pierre a écrit ceci. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Voilà donc la première leçon à retenir. Dieu ne voit pas et ne vit pas le temps tel que nous le voyons ou le vivons. Dieu est éternel. Il vit en dehors du temps et de l'espace, même s'il est aussi avec nous dans le temps et dans l'espace. Il s'agit d'un paradoxe qui dépasse notre entendement. Pour le Dieu qui habite l'éternité, le passage de quelques milliers d'années est pour lui comme un clin d'œil. Il faut se rappeler aussi que dans l'Ancien Testament, nous constatons que certaines promesses de Dieu ont pris des centaines, voire des milliers d'années avant de s'accomplir. Prenons par exemple les promesses faites à Abraham. D'abord, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait dans sa vieillesse un fils avec sa femme Sarah. Et cette promesse s'est accomplie 25 ans plus tard, quand Sarah a donné naissance à Isaac. Cependant, Dieu avait aussi promis à Abraham qu'il aurait de très nombreux descendants et que ses descendants deviendraient une nation sur leur propre terre en Canaan. Les descendants d'Abraham ont été esclaves en Égypte pendant quelques siècles. Et c'est en Égypte qu'ils sont devenus un peuple nombreux. Puis Dieu a délivré ce peuple, les descendants d'Abraham, pour les conduire par l'intermédiaire de Moïse vers la terre promise. C'est enfin sous Josué que ce peuple a conquis la terre de Canaan pour devenir une nation. Alors vous voyez, entre les promesses faites à Abraham et l'accomplissement de cette dernière, environ 700 ou 800 ans se sont écoulés. Dieu avait aussi promis à Abraham que l'un de ses descendants deviendrait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Celui qui a accompli cette promesse, c'est Jésus-Christ. Le salut qu'il apporte est la plus grande des bénédictions et son message de salut s'adresse à toutes les nations du monde, à tout peuple. Or, Jésus est né plus de 2000 ans après l'annonce de cette promesse faite à Abraham. Nous voyons donc que d'un point de vue humain, Dieu prend souvent beaucoup de temps pour accomplir ses promesses. C'est pourquoi nous ne devons pas être surpris de la longue période de temps qui s'écoule maintenant, durant laquelle nous attendons le retour de Jésus. La Bible témoigne du fait que Dieu a tenu parole des centaines, voire des milliers de fois. Nous pouvons donc être sûrs que ces promesses concernant le retour de Jésus s'accompliront un jour, même si l'attente semble longue. Il n'y a pas de raison de douter des promesses de Dieu.
Merci Stéphane. Mais y a-t-il des indices dans le texte nous permettant de comprendre pour quelles raisons Dieu attend autant de temps pour accomplir cette promesse?
Oui. Écoutons de nouveau un extrait du texte lu. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Voyez-vous, les gens se moquent de Dieu à cause de son retard. Mais en fait, ce retard est une expression de sa compassion et de sa grâce envers les êtres humains. Lorsque Jésus reviendra, il jugera chacun et toute personne incrédule, moqueuse et rebelle périra dans le feu qui consumera la terre. Il faut le souligner, Dieu dans son amour ne veut pas que les gens finissent ainsi. Au contraire, il désire qu'ils trouvent le salut en Jésus-Christ. Ainsi, si Dieu retarde ce jour du jugement, c'est une preuve de sa patience, car il veut encore donner aux gens l'opportunité de se repentir et de mettre leur foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même a enseigné une chose similaire. Écoutons ses paroles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Ainsi, Jésus ne reviendra pas avant que tous les peuples de la terre aient eu l'occasion d'entendre la bonne nouvelle et de se tourner vers Jésus.
Et selon Matthieu chapitre 28, Jésus a confié cette mission, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle, à son Église. Autrement dit, nous avons tous la responsabilité de témoigner de Jésus et d'insister sur le fait que Dieu, dans sa grâce, désire que tous se repentent pour jouir du salut.
Oui, c'est exact, Yann. Et nous pouvons même dire que si Jésus tarde, c'est parce que l'Église est lente à accomplir la mission qu'il lui a confiée. Cependant, nous pouvons affirmer que de nos jours, la plupart des peuples de la terre ont eu l'occasion d'entendre parler de Jésus. Peut-être alors que sa venue est proche maintenant. Nous devons persévérer dans l'annonce de la bonne nouvelle, en l'expliquant à tous, même si des gens se moquent de nous et se montrent irrespectueux. Nous devons suivre l'exemple de notre Père Céleste, rempli de compassion et de grâce, et faire preuve également de patience en attendant le retour de Jésus. Nous savons que l'attente est pénible, et rempli d'épreuves. Mais si nous avons un cœur plein de compassion à l'image de Dieu, nous saurons patienter dans l'espoir que beaucoup se tourneront vers Jésus.
Merci pour ces explications instructives sur cette période d'attente au sujet du retour de Jésus. Vous vouliez ajouter un avertissement, me semble-t-il.
Oui, il s'agit d'un avertissement qui s'adresse à celles et ceux qui s'obstinent à rejeter Jésus et se moquent de tous ceux qui attendent son retour. Écoutons de nouveau le texte. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Ce texte nous rappelle que le jour du jugement qui aura lieu quand Jésus reviendra est une réalité à venir dont il faut tenir compte dès aujourd'hui. En fait, cette patience de Dieu dont nous venons de parler, ne durera pas toujours. Au contraire, elle finira par s'épuiser, car Dieu exercera sa justice, et ce sera terrifiant. Nous pouvons l'affirmer, les gens qui se moquent de Dieu aujourd'hui ne riront pas ce jour-là. Ce sera trop tard pour se repentir. Pierre répète l'enseignement des évangiles. Il rappelle que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Autrement dit, Jésus viendra de façon inattendue. Il n'annoncera pas la date de son retour, tout comme voleur n'annonce jamais le jour où il cambriolera une maison. Il y a deux leçons à retenir de cette image du voleur. D'abord, si quelqu'un prétend connaître la date exacte du retour de Jésus-Christ, il a tort. Il est soit un menteur, soit un illuminé, et dans les deux cas, il ne faut pas l'écouter. La Bible est très claire. Jésus reviendra à un moment inattendu et personne ne saura d'avance la date. Ensuite, la raison principale pour laquelle Pierre donne cet enseignement, c'est pour encourager toute personne à se tourner vers Jésus sans hésiter davantage. Si on ne sait pas à quel moment un voleur va entrer chez nous, alors on prend toutes les bonnes précautions possibles, et à tout moment, sans attendre. Pour empêcher les cambrioleurs d'agir, il vaut mieux par exemple mettre de bonnes serrures aux portes, et éventuellement employer un gardien, ou installer un système d'alarme. De la même manière, il faut être prêt dès aujourd'hui pour le retour de Jésus-Christ. Il vaut mieux ne pas attendre un jour de plus, car qui sait, il pourrait revenir ce soir.
Et comment se préparer pour le retour de Jésus-Christ?
La Bible parle de la repentance. Autrement dit, il faut changer d'attitude envers Jésus. Nous avons parlé de personnes qui se moquent des chrétiens. Ces personnes s'opposent à Jésus et elles ne montrent aucun respect pour lui. Elles ne le craignent pas. Alors ces personnes doivent changer d'attitude, car Jésus est ressuscité et il est le roi souverain de l'univers entier. En tant que tel, il est digne de notre adoration et de notre confiance. Le respecter et lui obéir est important. Oui, c'est en nous tournant vers Jésus que nous nous mettrons à l'abri du jugement de Dieu et que nous serons sauvés des événements catastrophiques qui marqueront son retour.
Nous remercions Stéphane pour sa participation aujourd'hui et pour toutes les leçons importantes qu'il a dégagées du texte étudié. Il sera de retour la prochaine fois pour poursuivre nos réflexions concernant cette deuxième lettre de Pierre. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.